Nous terminons notre parcours Caritas, consacré donc à un exercice de la charité, j'ai envie de dire, dans la sagesse, vécu dans la sagesse, avec discernement, comment vivre vraiment la charité du Christ dans nos relations d'aide avec les autres, dans l'accompagnement au sens large des personnes. Terminons ce parcours par un dernier module sur le développement, comment dire, la croissance humaine et spirituelle de la personne humaine. Donc, essayer d'y voir un peu plus clair quant au lien entre la sainteté et puis la guérison de notre humanité. Sachant que c'est une question qui est de plus en plus prégnante, comme on dit, et que l'Église se penche sur cette question-là aussi, nous invite à faire preuve de discernement par rapport à toutes les propositions qui sont faites actuellement et qui sont nées surtout d'une urgence pastorale avant de naître d'une réflexion théologique. En disant ça, je fais allusion à ce que vous connaissez, c'était des lieux de retraite, de guérison. Moi-même, j'en ai fait une dans ma vie, et puis Florence est bien située pour en parler, puisqu'elle a été pendant de nombreuses années à Bethesda avec Simone Paco. Moi, je suis dans la communauté de l'Emmanuel. Nous avons notre propre parcours qui s'appelle Miséricorde et Chemin de Vie, d'ailleurs qui est si accessible à la Trinité. Ça fait des années, même 12 ans exactement, qu'il y a un petit groupe de réflexion avec Emmanuel. Nous animons, et Florence est notre plus ancienne participante et collaboratrice de ce groupe de réflexion entre prêtres et thérapeutes, puis personne engagée dans l'accompagnement. Tu voulais rajouter quelque chose ?
Non.
Donc, ce qu'on va vous dire là pendant trois séances, c'est essentiellement des grandes lignes, mais je pense que c'est ça qui est important, c'est d'avoir un peu de recul, d'avoir des repères, pour pouvoir faire aussi pour nous-mêmes et pour les autres les bons choix au bon moment par rapport aux différents chemins qui s'offrent. Sachant que nous sommes tous concernés par cette question de la guérison, quant à la sainteté, n'en parlons pas, c'est l'appel premier de tout homme à tout instant. Si vous prenez le temps de lire les discours de Benoît XVI avec un peu d'attention, vous serez frappé sur l'insistance avec laquelle il parle de la guérison. Je ne cite ici que Jésus de Nazareth, premier livre. Guérir est une dimension essentielle de la mission apostolique et de la foi chrétienne en général. Ici d'un théologien allemand, Eugène Bieser, qui qualifie carrément le christianisme de religion thérapeutique, de religion de la guérison. Il a même dit dans un discours improvisé que la guérison était la première mission de l'Église. Mais évidemment, on va revenir sur cette question-là. Qu'est-ce qu'on entend par guérison ? En tout cas, le moins qu'on puisse dire, c'est que le magistère actuel n'a pas du tout de complexe, d'hésitation à parler de guérison sur le terrain de la vie chrétienne. Moi, personnellement, j'y vois peut-être le plus grand défi face aux attentes de l'homme contemporain. La question, elle se ramène pour moi à une question unique. Est-ce que Jésus sauve réellement, concrètement, l'homme ? Ou est-ce que c'est simplement une religion qui offre la possibilité pour l'homme d'espérer, après toute une vie d'épreuves et de renoncement et de purification et de pénitence, d'espérer avoir accès à la vie éternelle, qu'il faut en rester là en disant aux gens que finalement il n'y a qu'un seul but, c'est la vie éternelle, c'est pas faux. Tant sur Terre, c'est une seconde, un jour qui passe par rapport à l'éternité qui nous attend. Ou est-ce qu'il faut prendre au sérieux l'affirmation, répétée elle aussi inlassablement par Jean-Paul II, le Christ est le rédempteur de tout l'homme. Et son insistance notamment sur la rédemption du corps. Quand Jean-Paul II parlait de la rédemption du corps, à la suite de Saint Paul, Romains 8, il entendait la rédemption de l'homme dans son humanité charnelle, le psychisme et le corps physique. Mais la chair dans l'écriture, c'est le psychisme et le biologique tout à la fois. On sait bien que c'est lié. Donc, dans la rédemption du corps, il y a la rédemption du psychisme. C'est sûr que, en même temps, l'Église a toujours dit que la pleine restauration de notre humanité ne se ferait qu'avec la résurrection des corps, mais elle a aussi toujours affirmé que la puissance de la résurrection était à l'œuvre déjà dans le monde, et il ne s'agissait pas simplement de cette semence de vie éternelle qui a été mise au fond de notre cœur le jour de notre baptême. Cette semence de vie éternelle, précisément, elle est appelée, comme le montrent les paraboles, à grandir, à se développer, à devenir un grand arbre, ou à devenir comme le levain qui se lève, qui élève toute la pâte de notre humanité. Ce qui est difficile, c'est de tenir les deux à la fois que le Christ veut sauver tout l'homme, et en même temps que le but ultime, c'est pas une restauration parfaite de toute façon. Notre vie sur Terre sera toujours marquée par la réalité du mal, et elle est un passage, mais que le but ultime reste le fait d'accéder à la vie éternelle. Qu'on peut rentrer dans la vie éternelle en étant, comme dit Jésus, boiteux, estropié. Il vaut mieux rentrer boiteux, estropié dans la vie éternelle que d'être plongé dans la géhenne avec son corps en bon état. Eh bien d'accord, il y a aussi cet aspect-là dans l'Évangile. C'est-à-dire, en définitive, c'est le salut de l'âme vraiment qui est la seule chose, réalité vraiment nécessaire. En préparant cet enseignement, je me disais, le bon larron, il n'a pas eu le temps de faire une retraite de guérison. Tant il est reconnu comme un saint qui est fêté dans la tradition orientale. Son humanité en tant que larron, brigand, tout ça, devait être bien blessée au moment où il est mort. Il a reçu la grâce de la conversion, de la repentir d'amour, et ça a suffi pour apparemment le faire rentrer tout de suite au ciel. Bon, ben, pas seulement apparemment, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Un exemple parmi d'autres, une personne qui n'a pas été guérie tout entière, mais qui a été sauvée réellement. Et bon. Donc vous voyez, il faut pouvoir tenir tout. C'est ça qui est difficile, c'est trouver l'équilibre dans tout ça. Personnellement, je verrais le défi dans le fait de parvenir à une nouvelle pédagogie de la sainteté adaptée à un monde blessé. Parce qu'on vit la parabole du fils prodigue, ça, le magistère revient continuellement là-dessus. Comparaison, l'homme moderne avec le fils prodigue, c'est classique de chez classique, comme on dit. Et en même temps, que nous sommes de fait affaiblis et blessés psychiquement, de plus en plus de génération en génération à cause de l'éclatement de la famille. En même temps, on est dans une culture psychologisante, ce qui simplifie pas les choses. Hein? Quant à trouver une pédagogie qui soit vraiment une pédagogie de la sainteté elle-même et pas une pédagogie d'une guérison psychologique, simplement, parce que la tentation est forte pour nous, comme prêtres aussi, de se situer sur ce plan-là, en recourant éventuellement à des certaines techniques, en tout cas en ayant une approche comme ça psychologique, c'est dans l'air du temps. Alors, plus que jamais, il faut que nous, chrétiens, nous aidions les personnes à avancer vers la sainteté elle-même, et pas à se centrer sur ce qui serait à ce moment-là un simple bien-être émotionnel. Donc je pense que cette pédagogie de la sainteté, elle doit nécessairement être aussi, étant donné qu'elle comprend, s'adresse à un homme qui est blessé, malade, une pédagogie de la pénitence. En fait, pour dire les choses simplement, je crois que ce qui nous manque, c'est une vie pénitentielle qui soit renouvelée, intégrée, qui soit voire profonde et concrète. On a perdu le sens de la pénitence. Perdu le sens du péché, en même temps, on a perdu le sens de cette première voie de guérison de l'homme qui est inscrite dans l'Évangile, qui s'appelle la pénitence. Marquez que la première exhortation apostolique de Jean-Paul II, c'est une exhortation sur la pénitence. Et Benoît XVI est revenu souvent sur cette question de la pénitence. Je veux citerai... citerai à l'occasion ce qu'il a dit à ce sujet-là pour montrer la nécessité de se réconcilier avec la notion de pénitence. Il faut qu'il y ait donc un axe unique, la sainteté, le chemin de la sainteté, un but unique, le salut éternel, et en même temps, une prise en compte de tout l'homme. Personnellement, je pense que ce n'est pas possible, par rapport à des personnes qui sont gravement blessées et malades, de fonctionner autrement qu'en équipe. Un des buts de notre groupe, très pratique, c'était de pouvoir mieux se connaître, parler un langage commun, être au clair sur ce que fait chacun et la place de chacun, de telle manière aussi, quand on accompagne des personnes et qu'on renvoie un prêtre, ou quand on est prêtre et qu'on renvoie un psychologue, on sache quand, à quel moment et pourquoi. Il faudrait une nouvelle génération de psychologues aussi. Mais à long terme, on ne peut pas s'en sortir autrement. Il faut rebâtir les choses sur du solide. Donc ce qui manque, c'est une anthropologie commune, et puis je dirais aussi un but commun. Le but commun de tout chrétien, qu'on soit psychologue ou prêtre, ça peut être qu'en définitive, le salut éternel de la personne. Quand je dis ça, j'invite pas les psychologues à faire du spirituel, hein, mais à vivre leur travail dans cette perspective-là, en voyant plus loin et en voyant comment leur travail propre s'intègre, prend place à l'intérieur d'un chemin qui est celui du Christ et qui comprend tout l'homme. Ça va, c'est clair? Donc le travail que je vous fais là, il est le fruit d'une réflexion notamment que j'ai reprise avec Florence, et on s'est J'ai particulièrement arrêté sur la question de savoir comment on pouvait définir la sainteté. Ce que j'aimerais ici, dans un premier temps, c'est éclairer la distinction entre la sainteté et la perfection morale. Première distinction à faire. Et ensuite, de voir la distinction entre la sainteté et la guérison. Je m'appuie évidemment sur l'écriture. Rechercher la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Autrement dit, la sainteté, c'est la condition nécessaire et suffisante pour voir Dieu. Le bon larron est parvenu à la sainteté. S'il n'était pas parvenu à la sainteté, Jésus n'aurait pas pu lui dire « Aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis », il aurait dû faire le purgatoire. Lui parvenu à la sainteté, allez. Je ne sais pas s'il est parvenu à la perfection morale. J'ai plus que des doutes, parce que la perfection morale supposerait qu'il ait acquis les vertus morales. Je ne sais pas si en quelques minutes sur la croix, il a eu le temps de faire tous les exercices nécessaires à cette acquisition des vertus morales. Je parle des vertus morales humaines acquises. Donc ici, il apparaît clairement, par l'expérience, qu'on peut parvenir à une vraie sainteté. À ce moment-là, on sent bien que c'est dans le cœur que ça se joue, sans avoir acquis toutes les vertus qui perfectionnent notre humanité, qu'on appelle les vertus humaines, notamment les vertus humaines morales. Bon, je poursuis. Comment définir la sainteté ? Moi, je pense que la sainteté, elle réside essentiellement dans la pureté du cœur. Bien dans les cœurs purs, ils verront Dieu. Et la pureté du cœur, c'est d'être tourné vers Dieu et non pas vers soi. D'être ouvert à un autre que soi, même totalement ouvert à Dieu. Alors, moi, j'aime parler à la suite de Benoît XVI, d'un Exode, je vous cite Deus Caritas Est, exode permanent, allant du jeu, enfermé sur lui-même, vers sa libération dans le don de soi. On a une vie pour passer d'une vie centrée sur soi à une vie centrée sur un autre que soi. Et dans la tradition mystique, on appelle l'extase. L'extase mystique, c'est un phénomène extraordinaire. Mais il y a une extase intérieure qu'on peut vivre sans en être conscient, qui fait qu'on s'oublie vraiment soi, on se détache vraiment de soi, pour vivre pour un autre que soi, aimer plus que soi. Mais il n'y a que Dieu qu'on peut aimer plus que soi, c'est l'adoration, en esprit en vérité.
Parce que c'est un Dieu qui nous donne la vie. C'est un Dieu qui nous donne d'aimer. C'est pour ça qu'on peut vivre comme ça. C'est pas un Dieu statique. Oui, ça va.
je souligne quelque chose que Florence m'a fait remarquer, c'est que on est appelé à s'offrir à Dieu, à s'ouvrir à Dieu, et en ce sens-là, à sortir de soi avec tout nous-mêmes. Pas en oubliant son humanité. C'est soi-même qu'il faut oublier, mais pas son humanité. On est appelé à s'offrir à Dieu avec tout ce que l'on est. Marquez que... Oui, vas-y.
Oui, Benoît XVI nous invite à sortir du « je » enfermé. Mais notre discussion avec Louis, entre autres, c'était « Attends, si on sort de soi, mais on est créé à l'image de Dieu, donc c'est avec tout nous-mêmes qu'on va à Dieu. C'est sortir de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Mais c'est avec tout nous-mêmes, avec notre humanité, créée à l'image de Dieu, qu'on va à lui. »
Sortir de la prison de notre moi propre. Une expression de Benoît XVI aussi. Voilà. Alors, en vous disant ça, maintenant, je repense à l'appel de Dieu pour moi. J'ai donné ma vie à Dieu de manière, dans un don radical, total. Plus j'y replonge, je me dis que c'était vraiment l'Esprit Saint qui m'est tombé dessus pour que je puisse faire un don de moi-même qui était au-delà de la générosité humaine. Un don total, j'ai été poussé à ce don total, mais j'étais pas en possession de mon humanité. Je peux dire que j'ai fait un don total de moi-même sans être conscient de ce que je portais dans mon humanité. Et ça rejoint cette question-là, c'est-à-dire on peut se donner au fond de son cœur à Dieu sans avoir donné à Dieu et ouvert à Dieu toute son humanité. C'est qu'on ne peut pas ouvrir et donner à Dieu ce qu'on ne voit pas. Et moi, à 20 ans, il y avait plein de choses dont je n'étais pas conscient. Donc, ça se complique quand même. Vous voyez ? Alors, moi, je ne doute pas du tout de la vérité du don que j'ai fait de moi-même. Mais... quand je l'ai fait, je me suis dit, voilà, j'appartiens à Dieu maintenant. En fait, j'ai éprouvé une joie que je n'avais jamais éprouvée avant, une paix, et une effusion de l'Esprit Saint, et ça a duré. Mais, très clairement, le Seigneur, il voulait que j'aille plus loin dans le don, non pas dans la radicalité, mais dans le fait que ce don soit un don de ma vie tout entière et de mon humanité tout entière qui restait à consacrer. Sainteté, consécration, c'est le même mot en grec. C'est le saint, c'est lui qui appartient tout entier à Dieu. Alors, on peut appartenir à Dieu tout entier dans son cœur, mais on est appelé à appartenir à Dieu tout entier dans son corps et dans sa vie concrète, être saint dans tout son comportement. Je suis en train de réfléchir, de savoir si j'étais mort juste après avoir donné ma vie à Dieu, est-ce que je serais allé directement au ciel ou j'aurais dû faire du purgatoire? Je ne sais pas répondre. Mais il y avait la sainteté du cœur, mais il n'y avait pas la sainteté du corps.
Le bon larron non plus.
Alors le bon larron, je ne sais pas. J'ai pas des loupes pour voir, mais est-ce qu'il était plus conscient de son humanité qui s'est offert à Dieu en étant conscient de tout ce qui était malade en lui, c'est possible, on lui demandera au ciel.
Oui.
Mais vous voyez, quand saint Paul dit « Soyez saints dans tout votre être tout entier, corps, âme, esprit », c'est très clairement le désir de Dieu et ça suppose qu'on s'offre, qu'on vive ce mouvement d'exode et d'appartenance à un autre que soi, pas seulement dans son cœur, mais dans toute son humanité.
C'est pas un peu un faux problème, parce que un enfant peut se donner à Dieu, c'est quand même un enfant, il n'est pas C'est pas un adulte.
Je vais laisser Louis tousser et répondre. Que Louis dit, ce que nous disons, c'est on se donne à Dieu avec tout ce qu'on est, tout ce qu'on connaît au fur et à mesure de l'évolution, mais que l'évolution de notre vie nous amène à aussi donner ce que nous sommes physiquement, psychiquement, et travailler aussi sur nos tendances, que c'est pas simplement donner à Dieu dans un élan du cœur, mais donner à Dieu dans toute notre vie, et que ça se construit au fur et à mesure. Donc, comme dit Louis, son don a été parfait à ce moment-là, mais il a été appelé au cours de sa vie, et nous sommes appelés, plus nous voyons comment nous vivons, à consacrer toute notre vie et à rendre tous nos actes en relation à Dieu. L'enfant ne le sait pas, nous non plus, puis on chemine, voilà. Donc, l'enseignement d'aujourd'hui est surtout pour dire, c'est toute notre vie qui est concernée, pas simplement la vie spirituelle, mais tout notre être, notre quotidien, notre relation aux autres, nos pensées, notre volonté, les désirs et tout ça. Nos souffrances.
Bon, excusez-moi.
La réalité.
Alors, reprenons les choses sous l'angle de la perfection morale. Le grand danger, c'est, ça, il apparaît évident, une fois qu'on a défini la sainteté comme ça, serait la recherche d'une perfection, d'une perfection propre, recherchée pour elle-même, en fait, tout en disant qu'on le fait pour être un bon chrétien. Président, pour être un bon chrétien, pas pour Dieu en réalité. Dans une recherche d'un certain idéal de soi qui reste centré sur soi. Je me souviens une fois d'avoir exprimé au cardinal Lustiger, quand j'étais jeune prêtre à Rome, j'ai eu l'occasion de déjeuner avec lui dans une paroisse romaine. Je fais mes études au centre de l'Institut Jean-Paul II. Et je lui avais exprimé mon désir de la sainteté. Il m'a dit, mais ce n'est pas la sainteté qu'on recherche, c'est Dieu. Et précisément, la vraie sainteté, c'est pas rechercher la sainteté, mais Dieu. Donc il y a une sainteté qui s'arrête à un état de perfection qui en fait n'est pas la vraie sainteté. On se fait une certaine image de la sainteté précisément comme une perfection, un état de perfection, en oubliant qu'il s'agit essentiellement d'être en relation avec un autre que soi. Vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vécu, connaissance, la vision, le regard tourné vers. Alors, si vous regardez dans la montée du Mont Carmel de Saint Jean de la Croix, vous verrez au niveau de la purification de l'esprit, donc pour Saint Jean de la Croix, qui est l'étape ultime de la purification de l'homme, le fait de préférer Dieu à ce qu'il appelle les biens moraux, les vertus morales, tout ce qui perfectionne notre humanité, doit être relativisé par rapport à Dieu, Dieu lui-même, aimé plus que soi, plus que tout. En même temps, le terme de parfait existe dans l'Écriture. On ne peut pas simplement dire la sainteté, c'est pas la perfection, moi je ne suis pas parfait, normal, de toute façon les saints ils ne sont pas parfaits. Non. Là c'est un peu rapide. Jésus dit explicitement, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Mais si vous regardez le contexte, il s'agit de la perfection de l'amour. C'est quand il dit aimez vos ennemis. Donc, nous sommes appelés à l'amour parfait. Et question que je me suis posée, c'est dans quelle mesure ce chemin qui doit nous conduire à un état d'amour parfait, c'est-à-dire vraiment d'aimer habituellement comme Jésus nous a aimés sur la croix, est-ce que c'est possible d'aller jusqu'au bout de ce chemin sans, si je puis dire, sans travailler aussi à la purification de notre humanité? Est-ce qu'on peut y aller simplement à travers une vie qui serait purement spirituelle, intérieure, la vie de prière et éventuellement aussi de sacrifice, hein, de renoncement, mais sans se préoccuper de la guérison des maladies de l'âme? Alors on peut reciter le bon larron en disant que lui, il avait sûrement encore toutes sortes de défauts. Mais est-ce que d'une manière générale, pour nous qui sommes appelés à nous sanctifier et à cheminer sur le chemin de la perfection, véritable perfection, qui est la perfection de l'amour, est-ce qu'on peut le faire sans en même temps travailler sur son humanité? Je pose la question parce que chez saint Jean de la Croix, la purification radicale qui aboutit à la sainteté, c'est la purification de l'esprit. Et chez saint Jean de la Croix, la purification de l'esprit est précédée par la purification des sens. Alors, de fait, apparemment, Bon Larron a vécu la purification de l'esprit quelques instants. Il a renoncé totalement à lui-même et puis il est parvenu à l'amour parfait. Mais d'une manière habituelle, le chemin par lequel le chrétien avance jusqu'à la perfection de l'amour comprend une purification des sens, oui. Pour reprendre l'expression de saint Jean de la Croix, il faudrait préciser ce que ça veut dire, précédant la purification plus profonde de l'esprit. Pour que l'homme puisse parvenir à percevoir Dieu, dit Benoît XVI, les forces de son existence doivent agir ensemble. J'ai envie de dire ça, c'est que le chemin, c'est tout un ensemble. À certains moments, le Seigneur peut donner des grâces particulières pour faire que des personnes parviennent, on pense à une personne comme Marie-Madeleine, sûrement qu'elle a vécu un saut dans la sainteté pour passer de l'état de prostituée à celle qui était au pied de la croix. Ça a dû aller assez vite. Mais on parle ici du chemin ordinaire de la vie chrétienne, parce que nous voyons bien comment des personnes qui ont vécu des fortes expériences de Dieu et un fort don d'eux-mêmes à Dieu, je parle notamment dans le cas du renouveau charismatique que je connais un petit peu, et qui n'ont pas pris soin de leur humanité, qui n'ont pas regardé, qui n'ont pas eu assez de réalisme ou d'humilité aussi, parce que ça peut être ça le problème, pour voir ce qui restait à corriger, à réformer et à purifier dans leur comportement, dans leur affectivité notamment, eh bien, non seulement finissent par avoir une double vie, j'adore Dieu d'un côté et puis je me laisse aller à la pornographie de l'autre, ou alors, carrément, ce sont au bout d'un certain moment détournés du chemin spirituel, parce que de toute façon, c'était pas vivable, quoi. Florence ne fait aucun commentaire, mais elle partage ma souffrance devant tant de chemins qui ont été très forts spirituellement au départ, mais qui n'ont pas abouti, faute faute de sagesse, de réalisme et de prise en compte du poids de l'humain. C'est vrai que c'est complexe. Hein. Les vertus morales, si vous regardez le catéchisme de l'Église catholique, c'est la disposition à faire le bien. Disposition permanente à faire le bien, sont présentées comme les dispositions, c'est-à-dire les vertus qui disposent toutes les puissances de l'être humain à communier à l'amour divin. J'étais très frappé de voir que des vertus humaines, on dit c'est humain, ça reste humain, ça n'a rien à voir avec la vie divine qui est en nous, c'est autre chose, c'est humain, bon. Maintenant, les chrétiens nous disent que les vertus humaines sont là pour disposer toutes nos puissances à communier à l'amour divin. En même temps, il explique qu'il n'y a pas de vertu humaine, véritable vertu humaine, si ce n'est celles qui sont informées et vivifiées par les vertus théologales. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de vraie restauration de notre humanité humaine avec les vertus s'il n'y a pas une vie théologale, une vie de foi, d'espérance et de charité. À la fois, les vertus humaines dépendent de la vie théologale et en même temps, les vertus humaines sont là pour aider la vie théologale à quoi, je dirais, à rayonner sur toute notre humanité. Parce que tout notre être communie à l'amour divin, et pas simplement notre cœur. Précisément, à partir du moment où tout notre être communie à l'amour divin, évidemment, on échappe à la double vie, à la vie parallèle. Ici, ce n'est plus une question de perfection propre, de perfection humaine, qu'on rechercherait pour se sculpter un idéal de soi qui, dans lequel on puisse se complaire, au lieu de se complaire en Dieu. Mais il s'agit de laisser notre humanité progressivement se laisser pénétrer, envahir par l'amour divin, tout entière. Ouvrez toutes grandes les portes au Christ. Ouvrez toutes grandes les portes à l'amour divin, mais pour ça, purifiez-vous dans votre humanité et travaillez aussi aux humbles vertus humaines. Résolu, hein, mais on ouvre des perspectives quand même. Difficile, c'est de tenir tous les bouts de la chaîne, de ne pas rester enfermé dans une seule perspective, de ne pas se braquer, de ne pas durcir les choses, de ne pas systématiser. Donc on a vu le rapport sainteté-perfection morale. Et maintenant, on voit sainteté et guérison. Tout dépend de ce qu'on entend par guérison, évidemment. Si on entend par guérison la guérison du cœur, je ne vois pas tellement comment on pourrait faire une distinction entre la sainteté du cœur et la guérison du cœur. Le cœur, il est fait pour se tourner vers. C'est le lieu de l'ouverture, le lieu de la recherche. Un cœur guéri, c'est un cœur tourné vers Dieu. Moi, il n'y a pas de. Après, si. Je cite ici Benoît XVI, « Seul le chemin d'union progressive avec Dieu constitue le vrai processus de guérison de l'homme. » La pleine guérison, la guérison radicale de l'homme, c'est son chemin d'union à Dieu. Dans son cœur. Inversement, si on prend comme guérison la guérison des souffrances physiques et psychiques, on dit l'homme guéri, c'est celui qui ne souffre plus, qui ne ressent plus de souffrance ou qui n'est libéré des faiblesses et des infirmités liées à la fragilité de notre nature humaine. Bon, un homme fort, c'est clair, ça n'a strictement rien à voir avec la sainteté. C'est même plutôt le contraire. C'est-à-dire, plus on est fort, et plus facilement on se passe de Dieu. J'ai lu Saint François de Sales, cette parole toute simple, mais éclairante, plus je suis faible, plus je fais confiance à Dieu. À ce moment-là, donc, ceux qui disent que la guérison et la sainteté, ça n'a rien à voir, en fait, se situent dans cette perspective-là, ils confondent la guérison et puis le bien-être. Ils se disent, vous voyez, les saints, ils ont vécu beaucoup de situations où non seulement ils souffraient, mais ils avaient des handicaps, ils étaient les chars dans la chair, plein de choses. Donc vous voyez, c'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu se déploie. Donc arrêtez de nous parler de guérison, parce que la sainteté, elle n'est pas de ce côté-là. C'est-à-dire, tout est une question de mots. On va faire une distinction par rapport à la blessure. Si on considère la guérison sous l'angle de la guérison d'une blessure, par exemple une personne qui a été violée, la guérison de la blessure, elle doit être, je dirais, elle est d'une manière semblable à la guérison d'une blessure corporelle, dans laquelle il y a une plaie, puis il y a l'infection de la plaie. On sait très bien que ce qui est dangereux, c'est pas la plaie qui fait mal, mais le pus à l'intérieur. Il y a la souffrance infligée par le péché de l'autre, et puis il y a la manière dont on réagit.
Oui, c'est ça. C'est pas l'événement. La blessure, c'est pas l'événement. C'est la manière dont je vis l'événement. Et un même événement, bon, ce que tu viens de nommer, chacun de nous va déjà vivre une souffrance très différente pour le même événement. Donc déjà, c'est important d'entendre pour vous, pour les personnes que vous accompagnez, ok, si j'ose dire, tu as été violée, mais qu'est-ce que tu as vécu à ce moment-là ? Et chacun va dire une manière différente de comment ça l'a atteint. Tout dépend du milieu dans lequel il est, de où elle est, de si elle a pu parler à quelqu'un, si elle a pu être comprise, si pas du tout, si c'est dans une ambiance déjà de mépris, ou bien si c'est un acte comme ça où on dit bon ben ça lui a échappé et puis la relation peut se retrouver. Enfin vous voyez, ça qui est très important, c'est pas le traumatisme qui blesse, c'est la manière dont je le vis. Et on peut le vivre de manière extrêmement différente. Et même des personnes peuvent dire, pour une fois, il a fait attention à moi. C'est incroyable. On dit forcément. Eh bien non, pas forcément. Pour certains, j'étais la seule dans la famille où mon grand-père, il m'a trouvée parmi les autres. Et il est venu me chercher moi. Ok, il m'a fait ça, mais j'étais la préférée, par exemple. Ou bien sûr, tout le contraire de ce que... Mais c'est pour vous dire qu'en entendant les personnes, c'est important. Et quand on parle d'infection de la blessure, c'est ça. C'est Oui, il y a un événement dramatique qui m'est arrivé, mais en quoi il m'a blessée par rapport à moi-même, par rapport à la sexualité, par rapport à la vision que j'ai du sexe de cette personne-là, par rapport à mon avenir, par rapport, vous voyez, et d'écouter bien en nous, si c'est nous, enfin, ça ou un autre événement.
Florence, est-ce qu'on ne pourrait pas, pour faire la distinction, dire qu'il y a, faire la distinction entre blessure et maladie, il y a l'événement qui blesse, mais en quoi il m'a rendu malade? Parce qu'il y a quand même une puissance destructrice propre au péché de l'autre.
Oui, c'est tout à fait.
Tout n'est pas dans la blessure liée à la manière dont je réagis.
Oui, mais ce qui me blesse, tu as raison, c'est l'acte qui est pécamineux, mais aussi la manière dont je réagis. Et c'est là, comme tu dis, qu'il y a la maladie, hein, et puis il y a l'infection. On va parler de l'infection, de la blessure. Et c'est ça que j'essaye de vous faire voir. C'est la différence entre l'acte qui de toute façon me blesse, mais après, qu'est-ce que j'en fais?
Moi, je mettrais la maladie dans l'infection.
Oui, c'est ça. Oui. On est d'accord. Ça va?
L'infection me fait passer d'un état blessé à un état malade.
Oui, oui. Et qui, après, blesse toute ma relation, enfin, ma relation à moi, ma relation à l'autre, et souvent ma relation à Dieu, parce que où est-ce qu'il était à ce moment-là? Comment est-ce qu'il peut permettre ça? Comment est-ce qu'il a créé des hommes et des femmes qui peuvent me blesser à ce point-là? On ne parle pas du tout que des blessures sexuelles, hein, il y en a bien d'autres. Et ça marque aussi la relation à Dieu, souvent. Je ne peux plus faire confiance à personne, et pas plus à Dieu. Et c'est pour ça que ça joue aussi dans notre relation à Dieu et l'ouverture du cœur à Dieu. Et j'étais toujours au prêtre, là, dans notre groupe de travail, mais quand vous dites aux gens, offrez-vous à Dieu, attendez, comment est-ce qu'ils ont vécu des ouvertures qui ont pu être blessantes, et ils ne peuvent plus s'ouvrir à Dieu? Non pas qu'ils n'ont pas foi en Dieu, mais c'est que leur psychologie est tellement blessée au niveau de la confiance et de l'ouverture qu'ils ne peuvent pas non plus s'ouvrir à Dieu. Il faut trouver d'autres mots que ce mot d'ouvrir. Ou de, comment tu dis, toi, s'abandonner. Et quelquefois, on ne peut pas s'abandonner parce qu'on s'est abandonné. Et puis voilà ce qui est arrivé. Donc, il faut trouver d'autres mots qui puissent convenir. Et ce n'est pas toujours un manque de foi. C'est là que c'est lié, sainteté et vie psychologique, et blessure et guérison.
Oui, je rebondis sur ce que vient de dire Florence. Je pense que à cause de ces traumatismes et puis de la manière dont on a réagi, il y a des passerelles humaines qui ne sont plus possibles pour comprendre la bonté de Dieu et pour qu'il y a... C'est évident, quelqu'un qui a vécu avec ses parents une relation de confiance et d'abandon va avoir des dispositions humaines plus grandes pour pouvoir s'ouvrir dans son cœur à la tendresse du Père. Maintenant, la grâce reste la grâce. C'est-à-dire que ça peut être donné par grâce que la personne fasse dans son cœur l'expérience inouïe d'une tendresse jamais connue. Mais après, même si elle fait cette expérience-là, après, il faut que son humanité, je dirais, intègre la chose. Il faut garder l'idée de la gratuité de la grâce et de la liberté totale de Dieu, la grâce étant plus forte que la nature, et en même temps, du fait que pour vivre cette grâce dans notre vie concrète, ça, il faut que la nature arrive à être... au diapason, enfin, à être progressivement elle-même purifiée, que les choses s'unifient. Sinon, la personne vivra des temps d'intimité très forts avec Dieu dans l'adoration, et puis retombera dans la pornographie une heure après. Une chose importante par rapport à cette question de l'événement traumatisant, blessant, par rapport à cette question de la puissance destructrice du mal, c'est qu'il faut... Enfin, pour moi, il apparaît de plus en plus clair que... Enfin, ça, c'est l'Église qui nous l'enseigne, hein, que la plus grande puissance destructrice, c'est le péché. Le mal absolu, c'est le péché. Eh bien, faites appel à votre expérience de la vie. Vous voyez la différence qu'il y a entre une personne qui subit un deuil, perd son conjoint, et une personne qui subit un divorce. Ou un enfant qui va perdre son papa, parce que son papa a eu un accident, puis un enfant qui va perdre son papa s'est suicidé. Pas le même impact, objectivement, après, la manière dont chacun réagit, mais... Et ce qui fait la différence de l'impact, c'est le péché, le degré de péché. En définitive, ce qui est le plus difficile à assumer, là on a plus de mal à bien réagir, à ne pas tomber dans la maladie, à pas, parce que ça ne s'infecte pas, c'est quand on est affronté à un péché grave qui entraîne pas simplement une privation d'un bien, comme dans le cas, c'est-à-dire dans le cas d'un deuil ou d'un divorce pour l'enfant. Ben, peut-être qu'il ne verra jamais plus son père, son père est parti avec une femme, il ne verra jamais plus. Puis s'il meurt, le père ne verra jamais plus non plus. Apparemment, c'est le même manque, la même privation d'un bien, mais il n'y a pas que cet aspect de privation d'un bien, il y a la réalité du péché. Donc, extérieurement, la situation semble la même, et la blessure, ben oui, il n'a plus de papa, il est malheureux. Mais en fait, il est confronté à une autre réalité, même si on n'est pas conscient, qui est la réalité du mal avec un grand M, qui s'appelle le péché. Et moi, je pense que foncièrement, si tous nous avons, en fait, dans notre vie, des moments où on a mal réagi au mal, c'est parce que, tout simplement, on se heurte aux limites de notre amour humain, de notre cœur humain, de la capacité qu'il a d'assumer ce mal du péché. Et là, on peut dire, dans la foi, qu'il n'y en a qu'un seul qui a assumé le mal du péché, c'est le Christ sur la croix. Il l'a assumé jusqu'au bout. Finalement, il l'a assumé pour nous. Pour inverser la tendance. Pour qu'un jour, on puisse répondre au mal, par un amour plus grand que le mal, qu'il assume et le consume, pour parler comme Benoît XVI. Pour présenter les choses de manière plus concrète, c'est la question du pardon. Capacité qu'on a de pardonner, en fait. Sur ce terrain du pardon, on se heurte à ce que Benoît XVI appelle la supériorité du mal, par rapport à notre propre capacité d'aimer du mal, de la réalité du péché. Pardon de tout cœur, donner un père qui nous a abandonnés pour partir avec une autre femme, pardon de tout cœur, peut-être donné, qu'on soit croyant ou non, que par la grâce du Christ. En même temps, on pressent bien que dans le fait de pouvoir assumer maintenant, avec la grâce du Christ, ce qu'enfant, on n'a pas eu la force d'assumer, ce qui a fait qu'on est tombé dans du ressentiment, dans la colère, dans une agressivité, dans toutes sortes de choses qui ont été, hein, qui sont liées à cette racine qui est le ressentiment. En même temps, on sent bien que dans le pardon, il y a le secret de la guérison.
Tout à fait, mais chaque chose en son temps. Pas trop vite. m'expliquer, c'est que justement c'est important de prendre le temps d'écouter comment on a vécu ces souffrances, ce que nous en avons fait, quelles sont les répercussions dans notre vie, pour que tout ça justement puisse être amené à l'amour de Dieu qui va nous donner de pouvoir pardonner. Et que si on pardonne tout de suite, on court-circuite ce temps-là. Et c'est là que notre intérieur n'est pas évangélisé, mais qu'on colle le pardon sur une colère, mais le fond de la colère reste tant qu'on n'a pas pu entendre avec la personne quel est le fond de sa colère et de sa souffrance que son papa soit parti. Et à ce moment-là, c'est quand on peut entendre ce qu'il y a au fond de rancœur, de colère. Les psaumes en sont pleins. Le Seigneur, il aime qu'on lui dise tout ça et qu'on lui ouvre ça. Les psaumes sont pleins de colère, de revendications, et qu'est-ce que t'as fait, et où est-ce que t'étais, et si c'est un Dieu comme ça, j'en veux pas, tout en lui disant à lui, ce qui est quand même beau, le psaume, et que c'est là que l'amour peut être déversé, et qu'on peut recevoir la grâce du pardon. Que si on dit trop vite, comme elle a souvent dans le renouveau, que j'adore, hein, j'adore pas, j'espère, enfin bon, dont j'ai beaucoup reçu, mais souvent on colle trop vite le pardon. Alors c'est vrai que c'est la solution, c'est la guérison, mais il y a le temps de la chimio, je dirais, de prendre jour après jour une petite dose d'amour dans une petite dose de souffrance, dans ce lieu de souffrance où je suis, pour que petit à petit tout ça se passe. À moi, bien sûr, le Seigneur est maître de ses dons, hein. Mais j'alerte un peu sur la rapidité de vouloir arriver au but sans passer par les étapes.
On ne peut pas pardonner de tout cœur sans renoncer, sans lâcher la colère. On ne peut pas lâcher la colère si on refuse de la voir. Donc à ce moment-là, on est dans un vouloir pardonner et on se fait illusion à soi parce qu'on prend ses désirs pour la réalité. Il y a beaucoup de bons chrétiens qui restent là et qui ferment le dossier. Parce que laisser se réveiller la colère, c'est aussi laisser se réveiller quelque part la blessure. Nombre de bons chrétiens qui gardent des colères refoulées au fond d'eux-mêmes et qui s'étonnent d'avoir des mouvements d'agressivité vis-à-vis des autres. Il y a le trouble psychique que ça engendre, d'être coléreux de manière habituelle dans des choses qui n'ont rien à voir, qui ont un rapport très lointain avec la relation. Moi, je me suis aperçu que j'avais un pardon à donner. Parce que je, au bout d'un certain temps, enfin, on m'a aidé à le voir, c'est Cécile qui m'a aidé à le voir, parce que je piquais des colères toujours par rapport au même type de femme. Ça m'a un peu alerté. Mais j'étais coléreux aussi dans bien d'autres situations. Et quand j'ai accepté, j'ai fait un chemin pour voir. C'était de voir que j'avais de la colère là où je pensais avoir pardonné. Le jour où, pendant une retraite de guérison, de fait, j'ai reçu du Christ la grâce de pardonner. De fait, toutes les autres colères qui étaient liées à ça, spécialement les colères vis-à-vis de femmes, se sont vraiment disparues. Il y a une racine unique. On arrive à arracher la racine. Tout ce qui s'est développé à partir de cette racine, purifié à ce niveau-là. Maintenant, Florence me faisait remarquer qu'il y a, il y a des situations où il y a des troubles psychiques qui, même si la racine a été enlevée, purifiée, demeure parce que les personnes restent cabossées. Donc le cœur est purifié, la racine du mal est enlevée, mais les mauvais plis psychiques restent simplement. Ça n'a plus la même emprise, ça n'a plus la même profondeur, et ça n'a pratiquement plus de gravité morale, parce qu'il s'agit simplement de réactions premières, épidermiques, comme on dit. Mais il faut bien distinguer des mouvements épidermiques, personne qui a fait un travail sur elle en profondeur, des mouvements qui sont liés à une racine profonde.
Oui, tout à fait. Pas de no comment. Vous voyez tous dans vos yeux. Et on voit bien quand ça me reprend, ah, ça m'a échappé, mais on sent que le cœur n'est pas pris. Et qu'encore, on garde des sensibilités. J'ai une patiente encore ce matin qui me disait, est-ce que ça, ce symptôme-là, ça restera? J'ai dit, mais je n'en sais rien. Mais ce qu'on peut, c'est purifier le fond. Et puis, quelquefois, ça nous garde dans l'humilité que, ben oui, on a encore des mouvements comme ça, c'est des restes.
Ceux qui disent qu'on peut avoir toutes sortes de mauvaises tendances psychiques, de tendances désordonnées psychiques et parvenir à la sainteté, en fait, pense à la situation de saints qui, de fait, ont gardé des traits de caractère plutôt désagréables. Il paraît que saint Jérôme était coléreux. Je crois que saint Augustin, on a essuyé les plâtres, il paraît que c'était aller le voir, et puis il s'est fait attraper par saint Jérôme, je ne sais pas pourquoi, enfin, bon, saint Jérôme était coléreux. Ben, c'est sûr que qu'il est reconnu saint par l'Église, il faut penser qu'au fond de son cœur, il n'y a pas de racine amère, mais c'est simplement des restes, voilà, des choses que Dieu a laissées. Alors, saint François de Sales, lui, a dit que Dieu pouvait laisser comme ça des choses pour garder la personne dans l'humilité. Bon, là, voilà, on a bien des occasions de porter la faiblesse de la chair et tout ça. Bon. Alors, ceux qui défendent la position comme quoi la santé psychique et la sainteté, ça n'a rien à voir, se situent dans ce contexte-là. Mais je me permets de penser que la plupart des gens qui ont des accès de colère ne sont pas nécessairement purifiés la racine. Et que c'est très différent quand c'est révélateur et que c'est le lié à des choses profondes qui, elles, touchent au cœur. Que le pardon, c'est dans le cœur que ça se passe. Donc vous voyez, sur ces questions-là, on est constamment piégé par les mots, par des expériences qui sont en fait apparemment semblables, mais en réalité profondément différentes, et il y a une sorte de mélange continuel qui fait qu'on patauge et on n'arrive pas à éclaircir le débat. Donc ici, on essaie surtout déjà, en tout cas dans ce premier enseignement, d'opérer certaines distinctions nécessaires. Moi, j'ai beaucoup médité la parole de saint Paul, ceux qui appartiennent au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Crucifier la chair avec ses passions et ses convoitises, c'est aller jusqu'au bout du renoncement à l'affection, enfin, à la réaction mauvaise au mal. Là, pour le coup, au ressentiment. Et on crucifie. On met à mort la passion en se détachant totalement, radicalement d'elle. Qu'on reste marqué par elle au niveau psychique, Mais en attendant, on y renonce. Vraiment. C'est-à-dire, on coupe le lien, la complicité intérieure à la passion. Moi, ce que je dis souvent en confession aux gens, c'est pas votre attachement qui est gênant, c'est votre attachement à votre attachement. Le fil à la patte, le lien avec la passion mauvaise qu'on garde. On lâche pas la colère. Voilà. Et on pardonne pas parce qu'on lâche pas la colère. Non seulement on la lâche pas, mais on la nourrit. On y repense, on ressasse. On... Voilà. Et ça, c'est le fil à la patte. Personne ne dira pas que si elle coupe pas ce lien, elle va parvenir à la sainteté. Non, elle parviendra pas à la sainteté. Ceux qui appartiennent au Christ, les saints, qui appartiennent à Dieu, qui sont totalement offerts, donnés à Dieu, ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises.
Avec ses passions désordonnées. Il y a des passions qui sont bonnes. Et on crucifie la chair avec ses passions et ses convoitises. Mais la chair a du bon aussi, puisque le Christ a habité dans la chair. Il faut bien lire toute la phrase et pas que la moitié.
Il y a deux traditions. Il y a une tradition orientale qui utilise le mot passion de manière habituelle, de manière négative. Puis il y a une tradition occidentale, plus aristotélicienne, on va dire thomiste, vers la passion en soi, c'est neutre, il y a des passions bonnes, des passions mauvaises. Ça, c'est Galates 5, 24. Colossiens 3, 5, 6. C'est mortifier donc vos membres terrestres. Fornication, impureté, passion coupable, mauvais désir. Et la cupidité qui est une idolâtrie. Voilà ce qui attire la colère divine sur ceux qui résistent. Florence a utilisé une expression que je n'ai pas utilisée jusqu'ici, mais qui me plaît bien, elle parle de l'idolâtrie des passions. Une belle expression, passer de l'idolâtrie des passions à l'accueil de l'amour divin, l'accueil de l'amour. Tu veux préciser, Florence ?
Non, c'est tout ce qu'on vient de dire. Alors je redis, Saint Paul dit les passions coupables de nouveau. Il dit bien comme ça.
Oui, pas en Galate.
Pardon ?
Pas en Galate.
Pas en Galate, bon. L'idolâtrie, c'est quand on dit « Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je suis coléreuse, c'est comme ça que je suis, vous m'acceptez tel que je suis. » Et qu'on ne cherche pas. Quelquefois, on peut rester coléreux en souffrant. C'est autre chose que de dire « Ben, moi, je suis colérique, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, t'as qu'à m'accepter tel que je suis. » À ce moment-là, on idolâtre, on fait de la passion son Dieu. Et c'est ça qui me définit. Alors, ce qui me définit, c'est d'être enfant de Dieu, ouvert à l'amour et en chemin. Voilà, l'idolâtrie, c'est... Je reste comme ça et c'est ça mon but, ou voilà.
Et la mortification, la mise à mort des passions, dans leur racine, c'est-à-dire de notre attachement, dans la tradition pénitentielle de l'Église, ça s'appelle le repentir. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment bon, que le péché te déplaît. De repentir. Je me détache de mon péché, de ma passion mauvaise. Bah écoutez, pendant des siècles, des générations de chrétiens blessés par la vie, comme nous, se sont purifiés et ont été libérés de l'esclavage des passions et de l'engrenage par la pénitence, le chemin de la pénitence. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment le travail psychologique peut aider à aller plus loin dans notre vie pénitentielle. Mais la clé de la guérison, elle est dans la pénitence. Il n'y a pas d'autre chemin indiqué dans l'Évangile de toute façon. Parce qu'on cite souvent Jésus disant je suis venu appeler non pas les justes mais les pécheurs, on oublie, ça c'est Saint Matthieu, quand Saint Luc, il y a une précision qui est donnée, mais qui est implicite dans Saint Matthieu, c'est je ne suis pas venu appeler les justes mais les pécheurs au repentir, à la pénitence. Et c'est à ce moment-là que Jésus se présente comme le médecin. Ce n'est pas les bien portants, mais les malades qui ont besoin du médecin. Lui, le médecin des âmes, dit je ne suis pas venu appeler les justes. Et les pécheurs au repentir. Bon, on ne va pas aller jusqu'au bout de ce qu'on avait prévu ce soir, mais j'introduis le combat à mener, c'est de voir un peu les grandes lignes de ce qui dépend de nous pour mener le vrai combat, c'est-à-dire non pas rechercher une humanité sans trouble et sans aucun mauvais pli, mais d'aller jusqu'au bout du détachement par rapport aux passions elles-mêmes, et en même temps vivre notre chemin spirituel, notre union au Christ de telle manière que ça rejaillisse donc sur notre vie psychique, comment concrètement on peut mener le combat de la sainteté qui intègre la guérison dans notre vie. Voilà. Et ça nous devrait donc nous amener à bien situer l'intérêt des découvertes de la psychologie moderne par rapport au chemin de la sainteté. Vous me suivez, là? Bon. Alors, qu'est-ce que la plupart des gens éprouvent au commencement du chemin? Pour reprendre les expressions de Florence, elle éprouve des tendances qui s'imposent à elle, qui sont plus fortes qu'elle. Et elles n'ont pas la force de résister. Déjà, il faut faire une distinction entre le mouvement premier et puis notre réaction au mouvement premier. C'est-à-dire, ce que Dieu regarde, ce n'est pas le mouvement premier qui nous échappe. Parce qu'il y a péché là où il y a liberté. Donc, si c'est une réaction comme ça, spontanée, instinctive, liée précisément aux blessures de notre psychisme, mais que notre liberté n'a pas eu le temps de s'engager, il n'y a aucune gravité morale, c'est pas en soi ça qui peut nous empêcher d'être unis à Jésus. Mais il y a la réaction immédiate, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'en fais? Précisément, si au fond de moi-même il y a une racine, il y a un attachement à la passion suscite, il va y avoir une certaine complaisance, en tout cas, je ne vais pas la rejeter tout de suite, cette réaction première. Là, c'est ma liberté qui joue. Donc Dieu ne regarde pas, encore une fois, la manière dont la chair en nous réagit, mais la manière dont nous allons réagir aux réactions de la chair. Et dans la mesure où la racine, on ne la voit pas, on est au début du chemin. Je reprends l'exemple tout à l'heure des colères par rapport à un certain type de femme. Vous êtes enraciné dans une colère beaucoup plus profonde. Dans la mesure où je ne vois pas la racine, c'est sûr que je vais mener un combat pas spécialement enthousiasmant. C'est-à-dire je me bats avec une mauvaise herbe qui repousse tout le temps. Je fais des efforts, mais ça revient. Et j'ai l'impression de tourner en rond. Pour tenir sur le long terme, il faut s'accrocher. Hein. Ça s'appelle la réforme du comportement. Forme du comportement, la plupart des bons chrétiens maintenant, au bout d'un certain temps, se découragent, se lassent, disent que de toute façon, c'est pas la peine, ils n'y arriveront pas, et finissent par se résigner. Disant qu'ils ne peuvent pas faire autrement, qu'ils sont faits comme ça et que c'est pas la peine. Alors qu'en réalité, ici je voudrais insister sur le fait que ce combat, entre guillemets, désespéré, entre guillemets, au sens où c'est vrai que si on reste à ce niveau-là, il n'y a pas d'issue, enfin d'issue de guérison, de libération. Ce combat, malgré tout, il ne faut pas le dévaloriser. Parce que Dieu aime bien voir notre bonne volonté. Et c'est pas tant le fait de gagner la victoire que de se relever à chaque fois qu'on tombe qui lui plaît. Simplement, sur le long terme, il faudrait beaucoup d'humilité et de persévérance pour tenir comme ça toute sa vie. Je pense que dans les siècles passés, parce que les gens étaient beaucoup plus solides moralement, il y a des hommes qui, de fait, ont dû lutter pendant toute leur vie, en tout cas pendant longtemps de leur vie sur ce terrain-là, sans arriver à aller jusqu'à la racine des choses, mais qui ont offert à Dieu. Et dans la mesure où on sait aussi profiter de nos chutes pour revenir à la miséricorde divine avec plus d'humilité et de confiance, c'est sûr que si on vit cette logique-là, alors là, on se passe de psychologue, on est d'accord. On est sur un terrain qui est le terrain, le béaba de la pénitence, c'est-à-dire simplement, je lutte contre la tendance, agere contra. J'agis contre la tendance, je fais mes efforts au quotidien contre la tendance. Je dis, la personne qui vit ça et qui persévère, mais dans un esprit d'humilité et de confiance en la miséricorde de Dieu, pas dans une forme de recherche désespérée de perfection morale, à la force du poignet, de volontarisme moral, mais qui vivrait ça dans l'humilité et la confiance, telle que la petite Thérèse nous l'a appris, celle-là, de fait, elle se sanctifie sur le terrain de ses blessures. Mais on peut espérer qu'une personne qui pendant des années persévérerait dans cette lutte sans arriver à y voir clair quant à la racine et aller jusqu'au bout, recevra par grâce de Dieu la lumière et le repentir et de la perception de ce qui est à l'origine de la chose, parce que de fait, il y a des saints qui ont procédé comme ça, et seulement comme ça au départ, et qui, moyennant aussi la confession avec la grâce du sacrement, sont parvenus à une purification radicale. Donc, ne négligeons pas le béaba, je lutte contre la tendance mauvaise. Je continue à faire mon possible au niveau du comportement. Maintenant, dans l'Écriture, on voit une distinction claire qui rejoint tout ce qu'on a dit précédemment. Dans Saint Jacques, il est dit « Nettoyez vos mains, pécheurs. » Nettoyez vos mains, c'est le comportement extérieur, les actes extérieurs. Nettoyez vos mains. Et il rajoute, purifiez vos cœurs, âme double. Ici, je me permets de citer le catéchisme. La loi évangélique accomplit les commandements de la loi ancienne. Le serment du Seigneur, loin d'abolir ou de dévaluer les prescriptions morales de la loi ancienne, qui concernent la main, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, ça c'est les comportements concrets, tu ne commettras pas d'adultère, c'est le comportement concret. Adjere contra, je lutte contre le péché d'adultère, contre le mensonge. Donc, le serment sur la montagne, loin de dévaluer les prescriptions morales de la loi ancienne, on dégage les virtualités cachées, on fait surgir de nouvelles exigences. Jésus est allé encore plus loin dans l'exigence. Non seulement tu ne commettras pas l'adultère, mais tu ne regarderas pas une femme pour la désirer. Donc, au niveau du comportement, il ne fait pas de cadeau. C'est pas qu'il dit, Jésus, mais il n'y a que le cœur qui compte, le comportement, c'est relatif, moi je regarde le cœur, pas le comportement, non. Il va jusqu'au bout de la sanctification extérieure aussi, sanctification dans la manière d'agir. Mais la loi évangélique, donc, qui accomplit la loi, comme dit Jésus, c'est pas venu abolir, mais accomplir, en même temps, il n'ajoute pas de préceptes extérieurs nouveaux, ça de fait, mais il va jusqu'à réformer la racine des actes, le cœur. Là où l'homme choisit entre le pur et l'impur, là où se forment la foi, l'espérance et la charité, avec elles les autres vertus. Donc il y a une loi nouvelle dans l'Évangile qui nous est donnée pour purifiez le cœur lui-même. Nettoyez vos mains, purifiez vos cœurs. Et c'est pas pour rien que Jésus commence sa prédication dans l'Évangile en disant au royaume de Dieu proche, convertissez-vous, faites pénitence, purifiez-vous. L'Évangile, c'est aussi un immense appel au repentir, au vrai repentir, pas à un semblant de conversion. On règle certaines choses au niveau extérieur, mais en réalité, l'intérieur reste, comme dit Jésus, rempli de rapines et de méchanceté, parce qu'en fait, on n'a pas lâché la racine. Précisément dans l'Évangile, et plus précisément dans la personne du Christ, il y a le secret de la guérison du cœur. Et donc, en même temps, le secret de la purification du cœur, de la guérison du cœur, et en même temps, donc, quelque part, le secret de la guérison de tout l'homme. Maintenant, il y a des personnes qui vont commencer leur vie chrétienne, donc au niveau basique de l'adjere contra, en faisant voir les enfants au catéchisme. Il lutte contre le mensonge, il lutte contre toutes sortes de tendances comme ça. Et ils font des progrès hein, aussi, parce qu'ils tiennent bon, ils prient et tout ça. Mais ils sont à milieu de trouver la racine de certaines mauvaises tendances qu'ils ont dans leur relation parentale. Même si, pour moi, comme prêtre, des fois je fais certains rapprochements, je commence à comprendre, tiens, les parents sont divorcés, tiens, ceci, machin, bon, tout ça. Mais ils ne sont pas là du tout. Puis les adolescents, plus souvent, ne sont pas en état de faire cette descente en eux-mêmes. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne peuvent pas cheminer là où ils en sont, sur ce chemin de conversion, moyennant cette persévérance à lutter contre, mais c'est l'esprit dans lequel c'est fait qui est important à évangéliser. Une fois, pas de perfectionnisme moral, pas de volontarisme, mais l'humble offrande à Dieu de notre bonne volonté, et savoir aussi profiter de nos chutes pour revenir à lui avec encore plus d'humilité et de confiance en sa seule miséricorde. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui.
Amen.
Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Amen.